Passons maintenant au sujet qui fâche. J'ai nommé Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. 30 ans après les événements du Blade Runner original, l'agent K, incarné par Ryan Gosling, fait une découverte qui fait vaciller l'ordre établi de cette société fondée sur la séparation entre humains et réplicants. Une mystérieuse réplicante aurait accouché d'un enfant. Et attention, spoiler alerte, la mère n'est autre que Rachel, la réplicante femme fatale du premier opus. Et le père, je vous le donne en mille, n'est autre que, attention, tenez-vous bien, Rick Deckard, a.k.a. Harrison Ford. L'existence de cet enfant, qualifiée de miracle par plusieurs réplicants, leur donne des envies de révolte. Elle effraie aussi les autorités et attise la convoitise de l'entreprise Wallace. Le temps que vous vous remettiez, chers auditeurs, de la surprise provoquée par ce nœud dramatique totalement inattendu, coucou Kylo Ren, je vais maintenant demander à Pierre, Thomas et Léa leur avis sur ce film. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour Occitane.
Alors, du coup ?
C'est-à-dire que moi, je me suis un peu ennuyé pendant 2h44 de film. Il y avait beaucoup de dialogues. Je vais arrêter de parler comme ça. C'est surtout qu'en fait, j'avais... Bon, je vais le comparer au 1, ce qui est peut-être pas une bonne idée, mais... Quand on va voir une suite, quand je vais voir une suite, j'attends à retrouver des éléments qui m'ont plu, des éléments de fond ou de autour du film qui m'ont plu dans le premier, et j'ai vraiment pas retrouvé des choses qui m'ont plu dans le 2 en fait. Il m'a manqué les plans sur Los Angeles en 2019 avec le petit air de saxophone et la pluie. Il m'a manqué tous ces plans là et tous ces plans trop larges avec juste des petites touches de lumière, alors que le premier plan du premier était quand même somptueux. Ça m'a manqué. Moi, il y a beaucoup de choses. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué par rapport au premier, dans le deuxième. Enfin, dans le deuxième. On dit le deuxième, mais c'est 2049.
On dit pas le deuxième.
On retrouve quand même un peu l'esthétique du premier, l'atmosphère un peu électrique, sale. Puis il y a ce truc que j'aime bien. C'est un mélange de choses qui sont censées être futuristes, mais qui ou en fait déjà vieilli, enfin c'est tout le courant du cyberpunk, des trucs comme ça. Enfin l'esthétique moi m'a beaucoup plu. Ça colle exactement en plus avec la musique de Frank Zimmer. Enfin ça va très bien ensemble. Bon tout le reste j'ai pas du tout aimé, mais l'esthétique j'ai beaucoup aimé l'esthétique du film.
Ouais, moi l'esthétique c'est ce qui me dérange le moins, mais on va écouter l'avis de Pierre.
Fuck you Michael Green, voilà c'est le commentaire principal. Je suis un énorme fan du premier film. L'esthétique, franchement, est plutôt cool, même si elle n'a rien à voir avec le premier. Il y a quelques éléments qu'on retrouve du premier. Du coup, le fanboy en moi s'est excité à la vue de pas mal de choses, notamment la réutilisation de l'audio du premier film. Je trouvais assez cool. Le premier plan aussi, qui est assez rigolo. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il fout là. Il me semble, voilà, la pupille, ça rappelle le premier plan du premier, mais ça rapporte strictement rien, sauf... ça. Et sinon, en fait, le scénario est à chier. Mais vraiment. Genre, ils ont pris un scénariste de série hollywoodien pour faire quand même un film qui est tiré non seulement d'un des piliers de la littérature de science-fiction des années 70, puis un film noir excellentissime, et après, ils ont totalement massacré le truc en faisant une espèce de film soit trop court, soit trop long, qui tente plein de trucs, qui les oublie. Et tout ça, franchement, ça m'a énervé parce qu'en sortant, je me suis dit « Waouh, quelle claque !» Après, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis rendu compte que le scénario était pourri. Le twist, je l'avais compris dès les 15 premières minutes. Le contre-twist, je l'avais compris dès les 30 premières minutes. Franchement, c'était insupportable. Et le seul problème, c'est qu'un film, de mon point de vue en tout cas, 60%, c'est quand même le scénario. On vient voir une histoire, faut qu'il y ait quelque chose, faut que ça s'assemble. Faut pas juste que ce soit un ensemble de plans, surtout quand on va voir de la SF, donc un film de genre. Et du coup, le scénario étant totalement nul... Je sais pas, je suis extrêmement mitigé et je pense qu'il aurait juste fallu virer le scénariste et reprendre l'original.
Bon, alors je salue Madame Amerly, ma prof de cinéma de prépa qui serait morte en entendant que 60% d'un film c'était le scénario, mais passons. Donc oui, d'un point de vue narratif, il me semble que les twists successifs ne fonctionnent pas, que la musique est ultra poussive, excepté peut-être les moments où Vangelis, on va dire. Mais sinon, oui, elle est ultra poussive. Enfin, le moment où il y a...
Tous les moments où ça fait... Oh,
c'est du bruit. Ça marche. Ça marche très bien. Ça fait un super effet, mais c'est du bruit.
Quelqu'un tape dans une canette.
Mais en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir vu un très long clip, quoi.
Oui, c'est ça. Parce qu'à chaque fois que...
C'est vrai.
Et puis la musique essaie de te forcer l'émotion, je trouve. Enfin, au moment, par exemple, où il trouve le cheval de bois. Bon, on a compris depuis 3 heures qu'il allait trouver ce putain de cheval de bois. Mais il y a la musique qui crie pour te dire mais si, et un frisson. Mais on n'aura jamais ce frisson, il me semble. Et c'est, selon moi, une maigre compensation de l'absence de jeu de Ryan Gosling. Parce qu'il faut qu'on en parle de ça aussi.
Non, franchement, ça marche super bien.
Oh non, il a le regard d'un bœuf quand il apprend qu'Harrison Ford est son père.
Sérieux, suffit de relanche. Hein.
Harrison Ford, il a le sourire de côté qui rattrape tout le reste.
Alors, Harrison, franchement. Non, j'avoue, c'est ce que je me suis dit en voyant le premier. Je me suis dit, en fait, Harrison Ford, c'est le film de trop que je crois que j'ai vu avec Harrison Ford, le premier Blade Runner, parce que je me suis dit qu'il avait vraiment peu de jeu. Mais dans Blade Runner, faut avouer quand même qu'il en a un peu plus que dans le simple Indiana Jones ou enfin
oui,
simple Indiana Jones entre grosses guillemets.
Il reste un androïde en fait.
Bah, genre, le réplicant c'est tout. Enfin pendant tout le film on essaie de t'apprendre que la tension entre réplicant et humain est pas si compliquée et que tout tient à comment dire un ovaire fécondé finalement et que du coup c'est plus qu'un androïde de toute façon.
Sauf que tous les êtres humains qu'on voit dans ce film c'est des robots, ils ont tous ils sont totalement plats, ils ont tous un objectif en tête.
Enfin, ils parlent comme tous mieux que Ryan Gosling quand même.
Franchement, surtout je trouve que ça marche bien, ça me rappelait Drive, et en fait, dans le contexte du film, ça marche vachement bien ce genre de jeu.
Bah, disons que c'est le seul jeu qu'on peut lui accorder à cet acteur, il me semble. Enfin, c'est-à-dire un joli film qui essaye de soutenir une absence de... Enfin, en fait, Ryan Gosling, moi, pour moi, c'est comme une espèce de toile, et une toile sur laquelle on peut projeter des lumières, du son, des beaux effets de néon, et puis il est là pour soutenir le tout et se balader dans la ville.
Peut-être même plus qu'un problème de jeu, c'est peut-être un problème de construction des personnages. Enfin, ils sont tous plus clichés les uns que les autres. C'est l'horreur, quoi. Enfin, c'est l'horreur. Entre le gentil flic qui fait son devoir, mais qui quand même a une conscience morale quand il faut tuer des gens qui ont des âmes, et la réplicante qui est censée être super froide, mais qui en fait est méga libidineuse. Enfin, c'est presque une parodie, quoi.
Elle l'embrasse à la fin.
Mais si, elle l'embrasse.
C'est vrai. Ah ouais, elle le tue, elle l'embrasse spoil. Sans aucune raison.
Mais si, elle le désire de. Enfin, si.
Moi, je trouve qu'il y a.
Moi, j'ai pas senti le désir tout le long du film, quand même.
Ah oui, non, parce que. Senti, bon, c'est un robot, il tente des trucs, et puis voilà, quoi.
Mais c'est ça le problème de ce film, c'est que. Enfin, je veux dire, traduire répliquant par robot, c'est un problème fondamental, enfin, qui me paraît assez insoluble. Enfin, c'est-à-dire que les répliquants ne sont pas des robots, c'est quand même des êtres. Des espèces, c'est à la lisière entre le clone et le robot. Je trouve ça un peu facile d'en faire des espèces d'automates à la Westworld.
Sauf que justement, en fait, le principe, c'est vraiment de. Le premier Blade Runner exprime le fait que les réplicants sont des robots. Et du coup, ça marche parfaitement dans la digeste du film. On comprend très bien, quand ils tirent sur un robot, d'accord, il y a du sang qui gicle, mais après, on s'attend à ce qu'ils voient que c'est un robot d'une manière ou d'une autre. Ça reste un robot avec la force surhumaine, etc. Dans le nouveau, avec toutes ces questions génétiques, etc., tout de suite, en fait, on perd cette limite. Et du coup, ça rajoute. À tout ce côté vraiment bizarre en fait, où dès le début, bah en fait, on comprend pas trop pourquoi les réplicants ont une force surhumaine si en soi c'est juste des humains.
Enfin, moi je trouve le côté robot, je suis pas tout à fait d'accord. Dans le premier, enfin, il y a toute cette scène quand ils vont chez celui qui fabrique les yeux et qui font chplouk chplouk avec les yeux, qui te font bien sentir que c'est un truc bien biologique, bien.
C'est un androïde, c'est un cyborg, d'accord, c'est pas un robot, mais quand même, il reste ce côté où on s'attend à ce qu'il y ait au moins quelque chose de mécanique. Je sais pas, par exemple, un squelette métallique, c'est un truc de base qu'on pourrait se dire dans le premier, voilà, c'est pour ça qu'ils sont super forts, qu'ils arrivent à traverser les murs et tout. Alors que là, on se rend compte qu'ils ont un squelette normal, et pourtant, quand on les explose contre un mur, c'est le mur qui casse avant eux.
Non, mais de toute façon, bon, il y a déjà ce problème-là, mais je trouve qu'aussi, au-delà de ça, on parlait donc de cette affaire de génétique, et il me semble qu'il y a toute une rhétorique ultra catho dans ce film, en fait.
Ah bon ?
Enfin.
Où ça ?
Bah dans cet enfant qui à la Moïse qu'on va paumer à l'intérieur de l'empire des méchants pour qu'ensuite ils reviennent tel un miracle comme ça et pour mener la révolution, enfin je sais pas, moi ça m'a paru la révolution elle marche que par le miracle, parce qu'à chaque fois tous les réplicants disent oui t'as pas vu un miracle alors ça marche pas, t'as pas la foi donc il faut que t'aies la foi, alors que dans le premier je trouve qu'il y avait plus la constitution d'une conscience de classe, enfin ce qu'on pourrait appeler une forme de conscience de classe, enfin la conscience d'être oui, on est peut-être pas des humains comme les autres, mais on a peut-être le droit d'exister nous aussi et de vivre, etc. Enfin, il me semble que ça se faisait pas par le biais nécessairement de la foi d'un miracle et d'un enfant.
Oui, c'était plus la. Oui, non, le premier, c'était vraiment des robots, enfin des personnes qui grandissent en apprenant ce que c'est que la mort, en découvrant la mort et en essayant de, en quelque sorte, l'apprivoiser, la comprendre. Et c'est sûr que là, dans le nouveau, on essaye de mettre en avant le côté, oui, mais maintenant qu'on a déjà vu que les réplicants, ils savent ce que c'est que la mort, maintenant, on va essayer de réfléchir à ce que c'est que la naissance. Et du coup, ça fait vraiment, c'est totalement plat. Et juste très vite, pour revenir à cette révolte-là, franchement, la révolution des robots, quoi. Non, mais sérieux, c'est dans le carton d'introduction et ils nous le resservent en seulement 2 scènes en plein milieu du film et ça fait... Je suis persuadé que le scénariste n'a vu qu'un seul film de science-fiction de toute sa vie, c'était le premier Blade Runner, et il s'est dit « Oh, attendez les gars, j'ai une idée super géniale », et il a sorti tous les clichés de la science-fiction d'un coup.
Et puis ils arrivent à 10, là, dans leur cave inondée du Lincoln Memorial, sous les gros piliers, là, ils sont 10 et ils vont faire « Oui, on va faire la révolution, vous allez voir, les humains n'ont qu'à bien se tenir ».
Et puis bon, est-ce qu'on parle ou pas de l'intelligence artificielle qui sert de petite femme à...
Ah, c'était cool, ça. Franchement,
ça, c'était pas mal.
C'était alors, des moments intéressants, moi, je veux dire.
Les moments les plus intéressants sur la question du transhumanisme, etc.
Peut-être. Je trouve que techniquement, c'est très beau. Que théoriquement, c'est très intéressant. Mais quand même, j'ai un problème avec le moment où elle se synchronise avec la prostituée.
C'est joli.
Je veux être réelle pour toi. Moi, je trouve ça
glauque. Je l'ai trouvé belle, cette scène.
C'est génial. Et puis, éthiquement, ça me pose un gros problème d'objectification, etc.
C'est ça qui est intéressant, justement.
Oui, mais c'est filmé, tout est filmé comme si c'était une belle scène d'amour d'un beau film d'amour. C'est avec de la musique, avec un truc poétique et tout
non,
ça.
Je suis pas d'accord.
Enfin, moi, je l'ai ressenti.
Ça reprend le glauque des relations sexuelles entre robots et autre chose qu'on voit dans le premier, par exemple.
Ouais, mais bon, elle est filmée.
Dans le premier, ouais, c'est ça. Enfin, ouais, c'est vrai que la première scène de sexe dans le premier film, entre Descartes et Rachel, ouais, elle était violente. Descartes lui demande de parler.
Oui, mais bon, à la fin, ils s'aiment et ils partent ensemble. Et là, elle est montée exactement de la même manière, c'est-à-dire avec un insert sur un panneau publicitaire. Enfin, moi, je sais pas, elle m'a posé problème, cette scène, en tout cas. Enfin, en tout cas, techniquement et théoriquement, enfin, je veux dire, pour toutes les histoires du corps au cinéma, du cadre, du plan, tout ça, c'est passionnant. Mais il me semble quand même qu'il y a un problème éthique, enfin qu'il y a un petit côté science sans conscience, quoi. Enfin.
Mais je la trouve pas filmée comme une scène d'amour ordinaire. On voit que c'est quelque chose de, enfin, inouï, bizarre, enfin nouveau qui se passe et ouais, non, je la
classifie. Ouais, peut-être que c'est moi qui l'ai perçue comme ça, mais en tout cas, ça m'a un petit peu dérangée. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une mise en scène qui paraît assez difficilement tenable. Bon, un scénario paraît
hyper alambiqué.
Je me suis tellement fait chier qu'en fait, si on additionne les trois chiffres de son truc, si on additionne les trois chiffres, c'est-à-dire 6, 7 et 3, ça fait 16. 16, c'est la 16e lettre de l'alphabet, ça fait P. Donc ça fait KDP, Kadik, Philippe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Une bonne raison d'aller voir ce film, un petit exercice de numérologie.
Mais
il me semble que. En fait, tout ce film est comme la scène d'ouverture, c'est-à-dire. C'est un plan aérien qui se déroule comme ça sur un paysage, un œil, comme dans le premier, mais sauf que toutes les couleurs ont disparu. C'est quasiment les deux mêmes scènes d'ouverture, et il me semble qu'en fait, c'est ça que je dirais sur ce film, c'est-à-dire que c'est un Blade Runner totalement décoloré, quoi. Et un peu fade. Et maintenant, on retrouve Pierre pour un nouvel épisode du Cerivore.